Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Saint François, Saint François d'Assise. Tout simplement parce que, avec l'équipe d'animation pastorale, nous avons orienté cette année sur le thème du respect de la nature en suivant le pape François, qui a écrit, vous savez, il y a quelques années, Laudato Si, une encyclique, qui fait d'ailleurs aujourd'hui, je pense, le meilleur texte qui soit sur l'écologie. Et ce serait dommage que les chrétiens soient absents de ce terrain sur lequel se précipitent toutes les consciences un peu éveillées. Saint François, nous le célébrons aujourd'hui d'une manière anticipée. On aurait pu le faire dimanche prochain, parce que c'est jeudi en fait, c'est jeudi la Saint-François, le 4 octobre. Mais dimanche prochain, je serai dimanche avec les scouts et samedi, je marie un neveu. Alors voilà, donc j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Vous connaissez évidemment la vie de Saint François d'Assise. Ça, vraiment, j'ai pas besoin d'en raconter davantage. Demain après-midi, je serai avec les scouts de France cette fois-ci. Pour le coup, je leur raconterai un peu plus sa vie, parce que c'est pas sûr qu'ils la connaissent. Vous connaissez très bien quand même. Il est mort à 44 ans, en 1226, c'est vraiment l'homme qui ouvre le XIIIe siècle. Voilà un premier repère qu'il est très important de comprendre, il ouvre le XIIIe siècle. Je veux juste signaler deux aspects sur sa vie. Si vous voulez en savoir davantage, ben vous venez demain à 14h30 à Jambeville, à la messe des Scouts de France. Voilà, vous aurez des détails sur son existence, où je raconterai un peu plus, parce que ce sont des enfants. Quoi. Mais là, je voudrais juste vous donner deux points importants et symptomatiques de son charisme. Et puis surtout, des choses qui ont favorisé sa vocation. Vous savez très bien qu'il est fils d'un drapier très riche, et qu'un jour, son père lui confie une mission avec beaucoup d'argent, et qu'il dilapide cet argent pour restaurer une église. Son père lui fait un procès, c'est bien comme relation, il lui fait un procès et le petit fiston, François, qui a 23 ans, dit « mais j'en appelle à la juridiction de l'Église parce que je veux me consacrer à Dieu ». Ah, dans ce cas-là, en effet, on peut librement faire ça et on se trouve devant un tribunal présidé par l'évêque. Et peut-être que vous connaissez cette histoire absolument fantastique, qui révèle une chose extraordinaire, c'est que l'Église a toujours eu un clergé ventripotent, bedonnant et paresseux, mais toujours également des visionnaires. Et là, il est tombé, l'évêque d'Assise, un visionnaire. Voilà, un évêque extraordinaire, quoi, comme on en souhaite. Hein. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que donc le procès a lieu. Et François dit « Mais moi, je n'ai fait que servir Dieu. D'ailleurs, je rends tout à mon père. Tout ce qui me reste, je le rends à mon père. » Donc, le peu d'argent qui lui restait de sa mission, il le donne à son père. Et le voilà qui se déshabille. Il donne tous ses habits. Il se retrouve nu. Et il donne ses habits à son père en disant « Voilà, je te donne tout ce que je peux. » Et à ce moment-là, que fait l'évêque? Il se lève et il le recouvre de son manteau. Croyez-vous que ce soit par une espèce de pudeur extraordinaire, en disant « Oh, un homme à poil dans la cour de l'évêque, quelle horreur !» Pas du tout. C'est juste pour dire « Je te prends sous mon autorité. » Il se dit « Ce gars-là a une idée géniale. Je veux le protéger. » Bien, à l'époque, c'était prophétique. C'était littéralement prophétique, voyez, de s'opposer aux corporations bourgeoises, pour dire « ce gars-là a un projet extraordinaire, il faut l'aider ». Et donc voilà Saint François qui est protégé par l'évêque. À l'époque, ça avait beaucoup de poids. Et puis, plus tard, il va rencontrer un pape courageux, un peu comme le nôtre en ce moment, qui va également le soutenir, quelques années plus tard, hein, 3 ans plus tard. Donc vous voyez, il croise des hommes extraordinaires. Grâce à Dieu, il y en a. Deuxième point sur son existence, et on pourrait passer la nuit à parler de Saint François, parce qu'on en sait pas mal sur lui. Et pourquoi on sait donc pas mal sur lui ? Parce qu'il est extraordinairement populaire. Figurez-vous qu'il a été canonisé 2 ans après sa mort. Ça n'est jamais arrivé. Il est mort à 44 ans. À l'époque, c'était l'âge moyen. Et à 46 ans, il était canonisé. Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il avait une popularité, mais incroyable. Bien plus que Jean-Paul II, bien plus que le curé d'Ars. Les gens, il y avait des émeutes quand ils passaient dans un village. Ils voulaient à tout prix le voir, le toucher. Enfin, c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et pourquoi était-il populaire ? Parce qu'il avait le souci de la pauvreté. Notez bien ça. Sous cette expression, le souci de la pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il a le souci des pauvres. Et il a le souci de soigner, de maintenir la pauvreté en lui. Le souci de la pauvreté. Donc le refus de la quête de la richesse est évidemment le souci des pauvres, c'est-à-dire soulager la misère. Alors là, vous voyez, il y aurait un thème qui m'intéresserait d'ailleurs de développer un jour ou l'autre. C'est pourquoi l'Église, y compris le pape actuel, qui porte le nom de François, c'est pas pour rien, pourquoi l'Église a toujours eu cette tendance à préférer les pauvres, il faut le dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des abrutis finis parmi les pauvres comme chez les riches. Il y a également chez eux des gens d'une extraordinaire violence, d'une vulgarité sans nom, comme chez nous. Et pourquoi l'Église a-t-elle préféré les pauvres ? Ben parce qu'eux, ils ne vendent pas leur pauvreté. Alors que les riches, ils ont fâcheuse tendance à se vanter de leur richesse. Vous avez déjà entendu un pauvre se vanter de sa pauvreté ? Un miséreux se vanter de sa misère ? Jamais. Vous avez déjà entendu des gens fortunés dire « Mais moi, j'ai bien gagné ma vie, je le mérite bien, cher monsieur. Oui, je suis riche, oui, je paye l'impôt sur la grande fortune, mais quand même, je le mérite. » Vous avez entendu un pauvre dire ça ? C'est une question d'orgueil. Ceci dit, ça pose une vraie question. Puisque l'Église a passé son temps depuis le IIIe siècle à lutter contre la misère, donc à lutter contre la pauvreté, c'est-à-dire la pauvreté n'est pas une bénédiction. La pauvreté n'est pas une bénédiction. Et pourtant, l'Église opte et fait une priorité à la pauvreté. Parce que, Saint François en est un exemple typique, la première des pauvretés, c'est accepter de dépendre des autres. La première des pauvretés, c'est renoncer aux richesses. Et à chaque, nous dit Saint François, à chaque fois que vous dépensez quelque chose, il faut d'urgence vous poser la question, est-ce bien utile ? Ne serait-ce pas plus utile pour autre chose ? Ça, c'est Saint François. C'est extraordinairement exigeant. Je vous le dis parce que c'est mon job, mais j'en suis moi-même incapable. Mais c'est mon job de vous le dire. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est l'Évangile. Et puis c'est Saint François. Et c'est la raison pour laquelle il était extraordinairement populaire. Parce que tout le monde comprenait quand même les bourgeois de l'époque, même les évêques, même le pape Innocent III, comprenait qu'il avait raison. Il y a quelque chose dans le gavage qui nous pourrit. Et c'est bien plus grave d'être pourri par nos richesses que d'être pourri par nos misères. Parce que ça peut évidemment arriver. Que se passe-t-il maintenant au début du XIIIe siècle ? Je passe à un autre sujet, après ces deux émergences dans la vie de Saint François. Vous voyez que c'est du lourd, hein, Saint François. Que se passe-t-il au XIIIe siècle qui a fait que le pape actuel choisisse comme modèle Saint François d'Assise ? Il le dit clairement dans son encyclique Laudato Si, c'est qu'il y a un nouveau rapport à la nature. Ça, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est très actuel. C'est tout à fait actuel. Auparavant, juste avant Saint François, donc vous avez bien noté, Saint François, c'est le début du XIIIe siècle. C'est lui qui ouvre le XIIIe siècle. Que se passait-il avant ? pour qu'on dise « Saint François, c'est un changement extraordinaire ». Ben, il y avait quoi avant ? Il y avait principalement deux types de comportements par rapport à la nature. Il y avait des gens, on va dire par exemple Saint Bernard, qui voyaient dans la nature en fait une véritable difficulté. Il fallait se protéger du froid, il fallait se protéger des famines. La nature était dure. Et donc, en quelque sorte, il y a un mouvement là, qui date des Carolingiens, 8e siècle jusqu'au 12e, qui dit « il faut se protéger de la nature ». La nature a quelque chose d'hostile, il faut en quelque sorte la domestiquer et puis se sauver des dangers de la nature. Parce que la nature est en quelque sorte désordonnée. Voilà. Et puis il y a un autre mouvement. Vous connaissez Saint Bernard, bien sûr, mais connaissez-vous Hildegard von Bingen ? Même période, hein, ils sont nés la même année. Mais c'est toute une autre théorie. Rien à voir. Hildegard von Bingen n'a pas peur de la nature. Elle ne dit pas « il faut se protéger des fléaux de la nature ». Elle dit « il y a dans la nature, telle que nous la voyons encore aujourd'hui, il y a des restes de paradis, des séquelles du paradis ». C'est extraordinaire comme vision. Elle dit en effet « cherchez bien ». Bon, c'est vrai, il y a des tempêtes, il y a des famines, mais cherchez bien et vous verrez. Il y a des séquelles du paradis. C'est-à-dire, nous avons mis à sac le paradis. Nous l'avons complètement piétiné. C'est l'histoire du péché originel, oui. Bon. Mais Dieu a laissé des traces. Et c'est pour ça qu'elle va chercher de la pharmacopée, vous savez. C'est-à-dire, quelle plante va nous faire du bien ? Quel animal peut soigner tel autre animal ? Quelle plante est utile pour soigner telle maladie chez les animaux ? Bref, elle cherche dans la nature à restaurer une harmonie qui n'aurait jamais dû être perdue. C'est une toute autre vision, hein, vous remarquez bien. Et c'est une vision géniale. Et pour notre monde contemporain, c'est pas pour rien que Hildegard von Bingen a tant de succès chez ceux qui croient en rien. Mais nous qui croyons en Dieu, qui croyons au Christ, qui sommes membres de l'Église, c'est des choses sur lesquelles nous devrions maintenant nous brancher d'une manière radicale. Nous avons ça dans notre tradition, ce ne sont pas les trotskistes écologistes qui ont inventé ces théories-là, c'est nous, c'est l'Église. Donc il faut le mettre en avant, il faut en vivre. Hildegard von Bingen, vous voyez, retrouver dans les séquelles du paradis cette harmonie que nous n'aurions jamais dû perdre. Harmonie avec les choses, harmonie avec les bêtes, harmonie avec le climat, harmonie avec le paysage, harmonie avec la nature. La nature, nous dit Hildegard von Bingen, n'est pas un matériau. Saint François arrive là-dessus. Et lui, Saint François, il ajoute à ça deux choses. Premièrement, il dit la nature, il parle aux franciscains, et il dit la nature sera notre cloître. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez que le cloître, c'est pour les bénédictins, le grand ordre bénédictin qui précède, c'est l'endroit où on médite. Et Saint François dit, mais on n'a pas besoin de construire de cloître, on n'a pas besoin de s'enfermer. Ouvrez les yeux, contemplez la nature. La nature est le lieu même de la prière. Encore une fois, observez comme c'est contemporain. Et ces émerveillements devant la nature. Pourquoi fait-on du tourisme ? C'est pas pour se gaver, c'est parce que c'est beau. Non ? Bah, évidemment. Et puis la deuxième chose que Saint François dit, qu'il rajoute par rapport à la tradition, et c'est pour ça que le pape François l'a choisi comme maître, et si possible comme docteur du XXIe siècle. Premièrement, la nature sera votre cloître. Deuxièmement, la nature est votre sœur. Waouh ! Frère soleil, sœur nature, qu'est-ce qu'il veut dire ? Mais il veut dire que notre destin dépend du sien. C'est incroyable, il dit ça au XIIIe siècle. Alors qu'aujourd'hui, en crachant nos poumons, on s'en rend compte enfin qu'il y a en effet une espèce de lien entre la nature et nous. Enfin, on s'éveille en disant que la nature n'est pas à notre disposition, que ce monde n'est pas un ramassis de matériaux dont nous pourrions faire ce que nous voulons. Enfin, nos chakras sont ouverts, et saint François, au XIIIe siècle, déjà le disait. Ce gars-là est un prophète. C'est pas étonnant qu'il ait été canonisé 2 ans après sa mort. C'est pas étonnant. Mais c'est ce qui est le plus étonnant, et ce pourquoi il faut véritablement que l'Église demande pardon à Dieu, c'est qu'on ait oublié cet enseignement d'or, qu'on l'ait oublié pendant 8 siècles. Ça, c'est gravissime. Mais je souhaite que vous ne l'ayez pas oublié.